VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En Mauritanie, la Cour suprême mauritanienne a ordonné aujourd'hui la remise en liberté immédiate de deux militants anti-esclavagistes condamnés à 2 ans de prison ferme en janvier 2015, notamment pour appartenance à une organisation non reconnue et rébellion contre la force publique. La Cour a requalifié les faits en simple délit, passible d'une peine d'emprisonnement maximum d'un an. Et elle a ordonné la libération de Biram Oulda Oulabeid et de Brahim Ould Bilal, a déclaré à l'AFP leur avocat Brahim Ould Ebeti. Officiellement, l'esclavage a été aboli en Mauritanie en 1981, mais certaines de ses pratiques perdurent. Une situation dénoncée avec véhémence par Ould Abeid, candidat malheureux à la présidentielle de juin 2014. Et puis au Nigeria, course contre la montre. Pour éviter la grève illimitée que menace de lancer demain les syndicats, le gouvernement a entamé à Abuja des discussions difficiles avec les centrales syndicales qui réclament la baisse des prix du carburant. Michel Joseph.
Le gouvernement, le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress ont débuté hier à Abuja leurs discussions. Les deux centrales syndicales ont appelé à une grève illimitée pour réclamer la baisse du prix de l'essence à la pompe. Les discussions seront difficiles. Le Bureau national des statistiques a annoncé que l'inflation a augmenté en avril et, selon le sous-secrétaire d'État au pétrole, Emmanuel Kachikou, la production de pétrole brut a chuté à environ 1,4 million de barils par jour contre 2 millions il y a quelques années. Pour le sous-secrétaire d'État, la hausse du prix de l'essence est absolument essentielle pour relancer la croissance, améliorer la confiance des investisseurs et même pour la survie du Nigeria. De leur côté, les syndicats ont prévenu que si les négociations échouent, la grève générale débuterait dès demain mercredi. Les administrations, aéroports, ports, banques, magasins et marchés devraient être affectés par ce débrayage.
En RDC, le célèbre chirurgien Denis Mukwege a appelé à un changement radical dans son pays en ce jour de célébration de la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. Le point avec Idriss Fall.
Pour le chirurgien Denis Mukwege, il faut un changement radical de l'actuel système parce que les crimes et barbaries qui sévissent dans l'est de la RDC depuis 20 ans renaissent avec une nouvelle intensité. Depuis plusieurs années, le docteur Mukwege aide les femmes victimes de viols. D'ailleurs, un film intitulé « L'homme qui répare les femmes » est consacré au directeur de l'hôpital Panzi de Bukavu. Dans son communiqué, il décrit des femmes enceintes, éventrées, des bébés mutilés, des êtres humains ligotés et égorgés à l'arme blanche, comme pour dire « trop, c'est trop ». À la mi-mars, le docteur Mukwege avait accusé les autorités de faire des manœuvres pour retarder les élections. Le Conseil constitutionnel vient d'autoriser le président Joseph Kabila à rester au pouvoir si des élections ne sont pas organisées d'ici le 19 décembre. Cet arrêt a déchaîné une levée de boucliers de l'opposition qui appelle à manifester le 26 mai. Dans ce vaste pays.
RDC toujours, le procès de l'ex-vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, a repris hier à la Cour pénale internationale pour déterminer sa peine. Il a déjà été reconnu coupable de crimes perpétrés par sa milice en Centrafrique. Et concernant la Centrafrique, la RCA vient de se doter d'un comité national pour la prévention et la répression du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ainsi que toutes les formes de discrimination. Le lancement officiel a eu lieu ce mardi à Bangui. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Le lancement a été fait en présence d'Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU sur la prévention du génocide en mission de travail à Bangui. Du 17 au 19 de ce mois, les membres de ce comité vont être formés sur le rôle auquel ils sont appelés à jouer. L'avocat Bruno Yacine Biegba en est le président.
Nous sommes en train aujourd'hui de former les membres du comité et comme vous entendez le nom, c'est un comité qui est chargé de prévenir le crime de génocide et les autres atrocités. Ça c'est-à-dire que nous serons formés pour travailler avec nos autorités pour voir les signes qui peuvent permettre soit les crimes de masse ou bien les crimes de génocide pour attirer leur attention afin de les arrêter.
La République centrafricaine devient ainsi le 8e des 12 pays de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs à disposer de ce comité après le Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Lutte contre la corruption au Cameroun. Une dizaine de suspects ont récemment été arrêtés, parmi lesquels des autorités administratives et des dirigeants de projets. Ils sont accusés d'avoir détourné des fonds destinés à indemniser les personnes déplacées par la construction du port en eau profonde de Kribi et du barrage de Bankim. Le reportage de notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
Parmi les 14 personnes arrêtées depuis le 1er mai et envoyées à la prison centrale de Kondenge à Yaoundé, figure Joseph André Eyebe Ayebe, sous-préfet de Bangante dans l'ouest du Cameroun. Il a été arrêté et son bureau scellé à peine un mois après sa nomination. Joseph André Eyebe Ayebe et ses 13 complices sont accusés d'avoir détourné 9 millions de dollars destinés pour indemniser la population déplacée avant la construction du port en eau profonde de Kribi et le barrage de Bankim. Étienne Dika, un des responsables au ministère de la Justice, explique.
Si effectivement on trouve qu'ils ont soit dérobé de l'argent, ils ont détourné de l'argent, ils ont été actifs dans la corruption, peu importe les autres raisons qui vont venir, ils doivent quand même rendre des comptes. Bon, maintenant, il peut y avoir des règlements de compte politiques, mais nous pensons quand même qu'il est bon que les Camerounais changent d'attitude. Avant, c'était eux qui réclamaient la transparence. Le fait que les gens puissent passer devant la justice et rendre compte de leur gestion peut faire éclater la vérité.
Le Cameroun a entamé la lutte contre la corruption en 2008. Parmi les personnes arrêtées figurent Inoni Ephrem, ancien premier ministre, Marafa Hamidou Yaya, ancien ministre d'État chargé de l'administration territoriale, Uben Olangena Awono, ancien ministre de la Santé, et beaucoup d'autres ministres et responsables des entreprises parapubliques. Depuis son arrestation, Marafa dit qu'il est victime pour avoir contesté la longévité de Paul Biya au pouvoir. Étienne Hamann, un des proches de Marafa, partage cet avis.
Les gens pensent réellement que, parmi lesquels les administrateurs, que l'opération Epervier est une opération à connotation politique. Sinon, comment expliquer que on en parle beaucoup dans les médias, les gens sont déférés dans les tribunaux, mais que la corruption ne s'est jamais aussi bien portée qu'en ce moment au Cameroun. Alors, deuxième observation, c'est que les Camerounais n'ont plus peur de l'opération Epervier, qui était censée quand même décourager certaines personnes dépendaient quelques libertés vis-à-vis de la fortune publique.
Animo Mondio, communicateur du principal parti de l'opposition, SDF, demande à la justice d'être transparent. Mais l'État dit que les procédures judiciaires pour rapatrier les fonds stockés dans les banques étrangères sont longues et difficiles. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique.
Conflit en Libye, le gouvernement libyen d'Union nationale a réclamé aujourd'hui des avions de chasse et des hélicoptères pour combattre les djihadistes de l'État islamique et ce, après la décision de la communauté internationale hier de lever l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Et puis toujours concernant la lutte contre le djihadisme, ici aux États-Unis, poursuite à Minneapolis dans le Minnesota du procès de trois Somaliens américains accusés de complot pour se joindre au groupe terroriste État islamique. Les précisions d'Idrissa Sedou Dia.
Les trois hommes, Mohamed Farah, 22 ans, Gouled Oumar, 21 ans et Abderrahman Daoud, 22 ans, ont plaidé non coupables. Ils risquent une peine de 15 ans de prison, voire la perpétuité pour avoir, selon l'accusation, comploté en vue de commettre des meurtres à l'étranger. La communauté somalie de Minneapolis a tenu à rappeler que l'on ne fait pas ici son procès et que la justice américaine considère les trois jeunes innocents jusqu'à leur condamnation. Les prévenus auraient eu plusieurs réunions entre mars 2014 et 2015 pour décider du meilleur moyen de se rendre en Syrie, mais ils ont été interceptés par les autorités avant qu'ils ne puissent prendre l'avion.
Et pour terminer, le conflit en Syrie lui-même, les grandes puissances tentent de relancer ce mardi à Vienne les négociations sur la paix en Syrie qui achoppent sur les modalités d'une transition politique et au blocage de l'aide humanitaire aux victimes du conflit. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.